Livre huitième, chapitre 1. Félix avait couru au jardin. Wilhelm le suivait avec ravissement. Une belle matinée présentait chaque objet avec de nouveaux charmes, et notre ami jouissait de ce moment avec une joie pure. La libre et magnifique nature était pour Félix un spectacle nouveau. Et son père ne connaissait pas beaucoup mieux les objets sur lesquels l'enfant ne se lassait pas de le questionner. Ils s'approchèrent enfin du jardinier, qui leur indiqua les noms et l'usage des diverses plantes. Wilhelm voyait la nature par un nouvel organe, et la curiosité de l'enfant lui faisait sentir quel faible intérêt il avait pris lui-même jusqu'alors aux objets extérieurs, combien il savait et connaissait peu de choses. Dans ce jour, le plus heureux de sa vie, sa propre éducation semblait ne faire que commencer. Il sentait la nécessité de s'instruire, parce qu'il était appelé à enseigner. Jarnot et l'abbé n'avaient pas reparu de tout le jour. Le soir, ils revinrent, suivis d'un étranger. Wilhelm courut à lui avec surprise. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était Werner, qui, de son côté, hésita un moment à le reconnaître. Ils s'embrassèrent tendrement, et ils ne purent cacher que de part et d'autre ils se trouvaient changés. Werner soutenait que son ami était devenu plus grand, plus fort, plus droit, mieux tourné, avec des manières plus agréables. « Je regrette, ajouta-t-il, qu'il ait perdu quelque chose de son ancienne cordialité. » « Elle se retrouvera, dit Wilhelm, quand nous serons revenus de la première surprise. » Il s'en fallait beaucoup que Werner eût produit sur Wilhelm une impression aussi favorable. Le bonhomme semblait avoir plutôt perdu que gagné. Il était beaucoup plus maigre qu'autrefois, son visage anguleux semblait être plus effilé, son nez était plus long, son front et sa tête dégarnis de cheveux, sa voix grêle, dure et criarde. Enfin, sa poitrine enfoncée, son dos voûté, ses joues décolorées annonçaient évidemment le travailleur soucieux. Wilhelm eut la courtoisie de s'exprimer avec beaucoup de réserve sur une si grande métamorphose, tandis que Werner donnait un libre cours à sa joie amicale. « En vérité, dit-il, si tu as mal employé ton temps, et si, comme je suppose, tu n'as rien gagné, tu es devenu du moins un joli garçon. » Qui peut et qui doit faire fortune. Mais ne va pas gaspiller et prodiguer encore ses avantages. Avec cette figure, tu as de quoi nous acheter une riche et belle héritière. Tu ne démentiras jamais ton caractère, répondit Wilhelm en souriant. À peine as-tu retrouvé ton ami, après un long temps, que déjà tu le considères comme une marchandise, comme un objet de spéculation sur lequel il y a quelque chose à gagner. Jarnot et l'abbé ne parurent nullement surpris de cette reconnaissance, et ils laissèrent nos deux amis s'étendre à loisir sur le présent et le passé. Werner tournait autour de son ami, le maniait et le passait en revue, au point de l'embarrasser. « Non, non, s'écriait le beau-frère, je n'ai rien vu de pareil, et pourtant je sais bien que ce n'est pas une illusion. Tes yeux sont plus profonds, ton front est plus large, ton nez plus délicat, et ta bouche plus gracieuse. Voyez-vous ce maintien? Quelle tournure! Quelle belle proportion! Oh, comme la paresse prospère! Tandis que moi, pauvre diable !» En disant ces mots, il se regardait au miroir. « Si, pendant ce temps-là, je n'avais gagné beaucoup d'argent, je ne vaudrais rien du tout. » Werner n'avait pas reçu la dernière lettre de Wilhelm. Leur société de commerce était cette maison étrangère avec laquelle l'auteur avait dessein d'acheter les terres en commun. C'était pour cette affaire que Werner était venu, et il ne s'attendait nullement à rencontrer Wilhelm sur son chemin. Le bailli survint. Les papiers furent produits. Werner trouva les propositions raisonnables. « Messieurs, poursuivit-il, si vous êtes, comme il me semble, bien disposé pour ce jeune homme, faites que notre part ne soit pas mauvaise, car il ne tiendra qu'à mon ami de prendre ses terres pour lui et d'y consacrer une partie de sa fortune. » Jarno et l'abbé assurèrent que cette recommandation était superflue. À peine les bases de la convention furent-elles posées, que Werner exprima le désir de faire une partie d'ombre, à quoi Jarno et l'abbé se prêtèrent à l'instant. C'était habitude chez lui. Il ne pouvait passer un soir sans jouer. Après souper, quand les deux amis se trouvèrent seuls, ils se questionnèrent et s'entretinrent vivement sur tout ce qu'ils désiraient apprendre l'un de l'autre. Wilhelm vantait sa position et le bonheur qu'il avait d'être admis dans la société d'hommes si distingués. Werner secoua la tête. « Il ne faudrait croire, dit-il, que ce qu'on voit de ses yeux. Plus d'un officieux ami m'avait assuré que tu vivais avec un jeune seigneur débauché. Tu lui procurais, disait-on, des comédiennes. Tu l'aidais à manger son bien et tu l'avais brouillé avec sa famille. » « Je serais fâché, répondit Wilhelm, pour mes excellents amis et pour moi, que nous fussions méconnus à ce point, si ma carrière dramatique ne m'avait rendu indifférent à tous les mauvais propos. Comment les hommes pourraient-ils juger nos actions, qui leur apparaissent toujours isolément et par traits détachés, dont ils ne voient que la moindre partie, parce que le bien et le mal se font en secret, et que ce sont le plus souvent les choses indifférentes qui paraissent au jour. Qu'on leur produise sur un tréteau des comédiens et des comédiennes, qu'on allume des bougies de tous côtés, toute la pièce est jouée en quelques heures. Et néanmoins, il est rare que quelqu'un sache proprement ce qu'il en doit penser. » Wilhelm fit 100 questions sur la famille, sur les amis d'enfance et la ville natale. Werner se hâta de lui dire tous les changements survenus et ce qui subsistait encore et ce qui s'était passé. « Nos dames, dit-il, sont heureuses et contentes. L'argent ne manque jamais. Elles passent la moitié du jour à se parer et l'autre moitié à étaler leur parure. Du reste, elles ne sont pas trop mauvaises ménagères. Mes garçons montrent assez d'intelligence. Je les vois déjà en idée assis au comptoir, écrire et calculer, courir, acheter et brocanter. Chacun d'eux aura, le plus tôt possible, son industrie à part. Pour ce qui regarde notre bien, tu verras des choses qui te feront plaisir. Quand nous serons en règle au sujet de ces terres, tu me suivras chez nous. Car, à te voir, tu me parais capable de t'occuper d'affaires avec quelque intelligence. Honneur à tes nouveaux amis qui t'ont fait entrer dans la bonne voie. Je suis un maître fou, et c'est maintenant que je vois combien je t'aime. Je ne puis me lasser de te regarder et d'admirer ta bonne mine. Aussi, comme te voilà, tu ne ressembles guère à ce portrait que tu envoyas un jour à ta sœur et qui souleva dans la maison un grand débat. La mère et la fille trouvaient charmant ce jeune monsieur avec son cou nu, sa poitrine débraillée, son grand jabot, ses cheveux flottants, son chapeau rond, sa veste courte et son pantalon flottant. Pour moi, je soutenais que ce costume n'en devait guère à celui de paillasse. Mais aujourd'hui, tu as l'air d'un homme. Il n'y manque plus que la queue. Je t'en prie, attache-moi ces cheveux. Autrement, on va te prendre en chemin pour un juif, et l'on te fera payer le péage et l'escorte. » Pendant cette conversation, Félix s'était glissé dans la chambre, et, sans qu'on prît garde à lui, il s'était couché et endormi sur le canapé. « Quel est ce marmot ? » dit Werner. Wilhelm ne se sentit pas, en ce moment, le courage de dire la vérité, et ne se souciait point de raconter une histoire, au fond toujours douteuse, un homme qui, par nature, n'était rien moins que crédule. Toute la société se rendit dans les terres pour les examiner et conclure le marché. Wilhelm gardait sans cesse Félix à ses côtés. En songeant à son fils, il contemplait ce domaine avec un vif plaisir. Les cerises et les fraises, presque mûres, éveillaient la friandise de Félix, et rappelait à Wilhelm le temps de son enfance et les nombreux devoirs du père, de préparer, de procurer et de conserver à sa famille la jouissance des biens. Avec quel intérêt il observait les pépinières et les bâtiments. Avec quelle ardeur il se disposait à réparer ce qui était négligé, à relever ce qui tombait en ruine. Il ne voyait plus le monde en oiseau de passage. Il ne regardait plus un édifice comme une cabane de feuillage bâtie à la hâte qui sèche avant qu'on l'abandonne. Tout ce qu'il voulait fonder aurait la durée de plusieurs générations. Dans ce sens, ses années d'apprentissage étaient finies. Et, avec les sentiments d'un père, il avait acquis toutes les vertus d'un citoyen. Il le sentait, et sa joie était sans égale. Oh, inutile rigueur de la morale, s'écriait-il, puisque la nature nous forme, par ses aimables leçons, à tout ce que nous devons être. Oh, singulière prétention de la société civile, qui d'abord nous trouble et nous égare, et qui ensuite exige de nous plus que ne fait la nature. Malheur à toute espèce d'éducation qui détruit les moyens les plus efficaces de l'éducation véritable, et qui fixe nos yeux sur le but au lieu de nous rendre heureux sur la route. Quelque variée que fût son expérience de la vie, ce ne fut qu'en observant l'enfance qu'il se forma des idées claires sur la nature de l'homme. Le théâtre, comme le monde, n'avait été pour lui qu'une poignée de dés étalés, qui portent chacun sur leur face un nombre plus ou moins élevé, et qui tous ensemble forment une certaine somme. Mais on pourrait dire que l'enfant était pour lui un dé unique, sur les faces diverses duquel étaient gravées clairement les qualités et les défauts de la nature humaine. Chaque jour augmentait chez Félix le désir de connaître. Quand une fois il eut appris que les objets avaient des noms, il voulut savoir le nom de chacun. Il était persuadé que son père devait tout savoir. Il le tourmentait souvent de questions et le portait à s'enquérir de choses auxquelles il avait fait jusque-là peu d'attention. Le désir naturel d'apprendre l'origine et la fin des êtres se montra aussi de bonne heure chez l'enfant. Quand il demandait d'où vient le vent et où s'en va la flamme, le père sentait vivement les bornes de son esprit. Il désirait connaître jusqu'où l'homme peut s'élever par la pensée et les choses dont il peut espérer de rendre compte à lui-même et aux autres. La colère de l'enfant, lorsqu'il voyait un être vivant victime d'une injustice, causait au père une vive joie, comme étant la marque d'un bon cœur. Un jour, il vit Félix battre de toutes ses forces la cuisinière qui avait tué quelques pigeons. Mais il fut bien désenchanté, lorsqu'une autre fois, il trouva son fils assommant sans pitié des grenouilles et déchirant des papillons. Ce trait le fit songer à tant d'hommes, qui semblent parfaitement justes lorsque la passion ne les possède pas, et qu'ils observent les actions des autres. Il aimait à sentir quelle heureuse et réelle influence Félix exerçait sur lui. Mais sa joie fut un moment troublée lorsqu'il vint à songer que l'enfant faisait l'éducation du père plus que le père celle de l'enfant. Wilhelm n'avait rien à reprendre chez son fils. Il n'était pas en état de lui donner une direction que l'enfant n'avait pas prise de son chef. Et même les mauvaises habitudes contre lesquelles Aurélie avait tant travaillé s'étaient toutes remontrées de plus belle après la mort de cet ami. Félix continuait à laisser les portes ouvertes, à ne pas manger ce qu'on servait sur son assiette, et il n'était jamais plus satisfait que lorsqu'on souffrait qu'il prît les morceaux dans le plat et qu'il laissa son verre plein pour boire à la bouteille. Il était délicieux aussi lorsqu'il se mettait dans un coin, un livre à la main, et disait bien sérieusement « Il faut que j'étudie ma leçon ». Quoiqu'il fût loin encore de connaître les lettres et de vouloir les apprendre. Quand Wilhelm considérait le peu qu'il avait fait jusqu'alors pour son enfant, le peu qu'il était capable de faire, Il était pris d'une inquiétude assez forte pour contrebalancer tout son bonheur. « Sommes-nous donc si égoïstes, nous autres hommes, se disait-il, que nous ne puissions prendre souci d'un autre que nous ? Ne suis-je pas avec Félix sur la même voie où j'étais avec Mignon ? J'ai attiré vers moi cette chère enfant. Sa présence a fait ma joie, et cependant, je l'ai impitoyablement négligée. Qu'ai-je fait pour lui donner l'instruction dont elle était si avide ? Rien. Je l'ai abandonnée à elle-même et à tous les hasards auxquels elle pouvait être exposée dans une société sans mœurs. Et ce petit garçon, que tu trouvais si remarquable avant qu'il te fût si cher, as-tu jamais senti le désir de faire la moindre chose pour lui ? Il n'est plus temps de gaspiller tes années et celles des autres. Recueille-toi et vois ce que tu as à faire pour toi-même et pour les aimables créatures que la nature et l'inclination ont si intimement liées à ton sort. » Ce monologue n'était proprement qu'un préambule pour se dire qu'il avait déjà fait ses réflexions, chercher le parti qu'il devait prendre et arrêter son choix. Il ne pouvait tarder davantage de se l'avouer à lui-même. Après tant de regrets superflus, donnés à la perte de Marianne, il voyait trop clairement qu'il devait chercher une mère à l'enfant, et qu'il n'en pouvait trouver une meilleure que Thérèse. Il connaissait parfaitement cette femme excellente. C'était la seule épouse, la seule compagne à laquelle il put se confier, lui et les siens. La noble inclination de Thérèse pour Lothaire ne l'arrêtait point. Ils étaient séparés à jamais par une destinée bizarre. Thérèse se regardait comme libre et avait parlé d'un mariage, avec indifférence, il est vrai, mais comme d'une chose toute naturelle. Après avoir longtemps réfléchi, il résolut de lui dire sur lui-même tout ce qu'il savait. Il fallait qu'elle apprît à le connaître comme il la connaissait, et il se mit à passer en revue son histoire. Elle lui parut si vide d'événements, et en somme, tous les aveux qu'il avait à faire, si peu à son avantage, qu'il fut plus d'une fois sur le point de renoncer à son projet. Enfin, il se résolut à prier Jarnot de tirer pour lui de la tour le manuscrit de ses années d'apprentissage. « C'est fort à propos, » lui répondit-il, et il remit le rouleau à Wilhelm. Un noble cœur ne peut s'empêcher de frémir lorsqu'il sent qu'il va être éclairé sur lui-même. Toutes les transitions sont des crises, et une crise n'est-elle pas une maladie ? Après une maladie, avec quelle répugnance on se regarde au miroir ? On se sent mieux et l'on ne voit que les ravages du mal passé. Cependant, Wilhelm était assez préparé. Déjà, les circonstances lui avaient parlé vivement. Ses amis ne l'avaient pas ménagé. Et bien qu'il déroulât le manuscrit avec quelque précipitation, il devint toujours plus tranquille à mesure qu'il avança dans sa lecture. Il trouva l'histoire détaillée de sa vie, esquissée à grands traits. Nul événement isolé, nul sentiment étroit, ne troublèrent son regard. Des observations générales, pleines de bienveillance, le dirigeaient sans l'humilier. Et il vit, pour la première fois, son image hors de lui, non pas comme dans un miroir, un second lui-même, mais comme dans un portrait, un autre lui-même. On ne se reconnaît pas sans doute à chaque trait, mais on est charmé de voir qu'un penseur nous a compris, qu'un grand talent nous a reproduit, de telle sorte qu'une image de ce que nous fûmes subsiste encore et pourra durer plus longtemps que nous. Wilhelm s'occupa dès lors à rédiger pour Thérèse l'histoire de sa vie, dont le manuscrit lui avait rappelé toutes les circonstances, et il rougissait de n'avoir, en présence de grandes vertus de cette aimable femme, rien à produire qui pût témoigner une sage activité. Autant son récit fut détaillé, autant sa lettre fut courte. Il demandait à Thérèse son amitié, son amour s'il était possible. Il lui offrait sa main et il implorait une prompte décision. Après avoir débattu quelque temps en lui-même, s'il devait consulter ses amis, Jarnot et l'abbé, dans cette affaire importante, il prit le parti de se taire. Il était trop fermement résolu. La chose était trop importante pour qu'il eût consenti à la soumettre à la décision de l'homme le meilleur et le plus sage. Il eut même la précaution de porter sa lettre au bureau de poste le plus voisin. Peut-être avait-il éprouvé un sentiment pénible à la pensée que tant de fois, dans les circonstances de sa vie où il croyait agir librement et en secret, on l'avait observé et même dirigé, comme cela paraissait clairement par le manuscrit. Et maintenant, il voulait du moins parler à Thérèse cœur à cœur et la rendre seule arbitre de son sort. Il ne se fit donc aucun scrupule de se dérober, du moins dans cette circonstance importante, à ses gardes et ses surveillants. Chapitre 2. La lettre fut à peine expédiée que l'auteur revint. Chacun s'applaudit de voir arrangées et bientôt conclues les importantes affaires qu'on avait préparées. Wilhelm était impatient de voir comment des fils si nombreux seraient noués ou déliés, et son propre sort fixé pour l'avenir. Lothair salua tous ses amis avec la plus grande cordialité. Il était complètement rétabli, et son air joyeux annonçait l'homme qui sait ce qu'il doit faire et que nul obstacle n'empêchera d'accomplir sa volonté. Wilhelm fut incapable de répondre à sa cordialité. « Voilà, se disait-il, l'ami, l'amant, le fiancé de Thérèse, que tu songes à supplanter. Crois-tu pouvoir jamais effacer ou dissiper l'impression qu'il a faite ? » Si la lettre n'avait pas été en chemin, peut-être ne l'aurait-il pas expédiée. Heureusement, le dé était jeté. Déjà, peut-être, Thérèse était décidée, et la distance couvrait seule encore de son voile une heureuse conclusion. La victoire ou la défaite serait bientôt connue. Il cherchait à se tranquilliser par toutes ses réflexions, et cependant, les mouvements de son cœur étaient presque fiévreux. Il ne pouvait donner que peu d'attention à l'importante affaire à laquelle tenait, en quelque façon, sa fortune tout entière. Ah, quand la passion le possède, combien l'homme trouve insignifiant tout ce qui l'environne, tout ce qui le touche. Heureusement pour Wilhelm, Lothair traita cette affaire avec grandeur et Werner avec facilité. Dans son ardeur pour le gain, Werner éprouvait une grande joie de la belle acquisition qu'il allait faire, ou plutôt son ami. Lothair, de son côté, semblait occupé de toute autre pensée. « Ce qui peut me réjouir, disait-il, c'est moins la possession que la légitimité. »«
Mais, au nom du ciel !» s'écria Werner. « Notre possession n'est-elle pas assez légitime ?»«
Pas tout à fait, » répondit Lothair.
« Est-ce que nous ne donnons pas notre argent ?»«
Fort bien. Aussi regarderez-vous peut-être comme un vain scrupule ce que j'ai à vous dire. Je ne vois de propriété tout à fait légitime, tout à fait pure, que celle qui paie sa dette à l'État.
« Comment ? » dit Werner. « Vous voudriez donc que nos terres, achetées libres, fussent imposables ? » ?»«
Oui, jusqu'à un certain point. Car c'est seulement de cette égalité avec les autres terres que résulte la sûreté de la possession. De nos jours, où tant de principes sont ébranlés, quelle est la raison essentielle qui fait juger aux paysans que la propriété du gentilhomme est moins solide que la sienne ? C'est uniquement que le gentilhomme n'est pas imposé, qu'il pèse sur lui.
Que deviendront alors les intérêts de notre capital ?
Il ne s'en trouverait pas plus mal, dit Lothair, si en échange d'un impôt raisonnable et régulier, l'État voulait nous affranchir de ces simagrées de fiefs et nous permettre de disposer de nos terres à notre gré, en sorte que nous ne fussions pas obligés de les grouper en si grande masse, qu'il nous fût loisible de les partager entre nos enfants d'une manière plus égale, pour leur assurer à tous une vive et libre activité, au lieu de leur laisser des privilèges gênés et gênants,
que nous ne pouvons maintenir qu'en invoquant les mânes de nos ancêtres. Combien ne seraient pas plus heureux les hommes et les femmes s'ils pouvaient regarder autour d'eux librement et sans considérations étrangères, élever jusqu'à eux par leur choix tantôt une vertueuse jeune fille, tantôt un digne jeune homme. L'État aurait de plus nombreux, peut-être de meilleurs citoyens, et ne manquerait pas si souvent de têtes et de bras. Je puis vous assurer, dit Werner, que je n'ai de ma vie pensé à l'État. J'ai payé les impôts, les péages et droits d'escorte, uniquement parce que la coutume le veut ainsi. Eh bien, dit Lothair, j'espère que je ferai de vous un bon patriote. Car de même qu'à table un bon père sert toujours ses enfants avant lui, un bon citoyen, avant toute autre dépense, prélève ce qu'il doit payer à l'État. Ces réflexions générales, loin de suspendre le cours de leurs affaires particulières, en accélèrent la conclusion. Lorsqu'elles furent à peu près réglées, Lothair dit à Wilhelm « Il faut que je vous envoie maintenant dans un lieu où vous êtes plus nécessaire qu'ici. Ma sœur vous fait prier de vous rendre chez elle aussitôt que possible. La pauvre mignon semble dépérir, et l'on croit que votre présence pourrait encore arrêter le mal. Ma sœur m'envoie ce nouveau billet qui vous montrera combien la chose l'intéresse. » Lothair lui présenta le billet. Wilhelm avait entendu ces paroles avec le plus grand embarras, et reconnut sur le champ, dans ces mots rapidement tracés au crayon, l'écriture de la comtesse. Il ne savait que répondre. « Emmenez Félix avec vous, dit Lothair, afin que les enfants s'égayent ensemble. Vous partirez demain matin. La voiture de ma sœur, dans laquelle mes gens sont venus, est encore ici. Mes chevaux vous conduiront jusqu'à moitié chemin, puis vous prendrez la poste. Adieu, cher ami. Saluez de ma part la comtesse. Dites-lui que je la reverrai bientôt et qu'elle doit se préparer à recevoir quelques hôtes. L'ami de notre grand-oncle, le marquis Cipriani, est en route pour venir ici. Il espérait trouver le vieillard encore vivant et passer avec lui d'heureux moments, au souvenir de leur ancienne liaison et dans les jouissances des arts qu'ils aimaient tous deux. Le marquis était beaucoup moins âgé que mon oncle, et lui devait la meilleure part de son éducation. Il faut maintenant mettre en œuvre toutes nos ressources pour combler un peu le vide qu'il trouvera, et nous ne pouvons mieux y réussir qu'en appelant à nous quelques amis. » Là-dessus, Lothair se retira chez lui avec l'abbé. Jarnot avait déjà pris les devants à cheval. Wilhelm se hâta de rentrer dans sa chambre. Il n'avait personne à qui se confier, personne dont le secours pût lui faire éviter une démarche qu'il redoutait si fort. Le petit domestique entra et demanda la permission de faire les paquets, parce qu'on voulait charger dès ce soir la voiture, afin de partir au point du jour. Wilhelm ne savait ce qu'il devait faire. Enfin, il se dit « Commence d'abord par sortir de cette maison. Tu réfléchiras en route à ce que tu dois faire, et tu resteras en tout cas à moitié chemin. De là, tu enverras un messager, et tu écriras à Lothair ce que tu n'oses pas lui dire, et qu'il en soit ce que le sort voudra. » Malgré cette résolution, il passa la nuit sans fermer l'œil. La vue de Félix, qui dormait doucement, lui donna seule quelque tranquillité. « Ah !» se disait-il, « qui sait quelles nouvelles épreuves t'attendent ? Qui sait combien mes fautes passées doivent me tourmenter encore ? Combien de bons et sages projets d'avenir je dois voir échouer ? Mais ce trésor, qu'enfin je possède, ô destinée exorable ou inexorable, conserve-le-moi. S'il pouvait arriver que cet être, la meilleure part de moi-même, fût détruit, ce cœur arraché à mon cœur, alors adieu raison et sagesse, adieu sollicitude et prévoyance, loin de moi le goût de conserver. Périsse tout ce qui nous distingue de la brute, et s'il n'est pas permis de mettre à ces tristes jours une fin volontaire, qu'un prompt délire m'enlève la conscience de moi-même, avant que la mort, qui la détruit pour toujours, amène la nuit éternelle. » Wilhelm prit l'enfant dans ses bras, le baisa, le pressa contre son cœur et l'arrosa de ses larmes. L'enfant s'éveilla, ses yeux brillants, son regard caressant, émurent le père jusqu'au fond de l'âme. « Quelle scène pour moi !» lui disait-il du cœur, « si je dois te présenter à la belle et malheureuse comtesse, si elle te presse contre le sein que ton père a si profondément blessé. Ne dois-je pas craindre qu'elle ne te repousse en gémissant aussitôt que ton attouchement réveillera sa douleur véritable ou imaginaire ?» Le cocher ne lui laissa pas le loisir de réfléchir ou de balancer plus longtemps. Il fallut monter en voiture avant le jour. Wilhelm enveloppa son Félix d'un manteau. La matinée était froide mais sereine. C'était la première fois de sa vie que l'enfant voyait le lever du soleil. Son étonnement, au premier feu du matin, à l'éclat toujours croissant de la lumière, sa joie et ses naïves réflexions charmaient le père et lui permettaient de lire dans ce jeune cœur, devant lequel le soleil se levait et planait comme sur un lac pur et tranquille. Le cocher détela dans une petite ville et ramena les chevaux chez son maître. Wilhelm prit une chambre à l'auberge et se demanda tout de bon s'il devait rester ou poursuivre sa route. Dans cette irrésolution, il osa relire le billet de la comtesse, sur lequel il n'avait pas eu jusqu'alors le courage de reporter ses regards. « Envoie-moi bien vite ton jeune ami, » disait la comtesse. « L'état de Mignon me semble s'être aggravé ces deux derniers jours. Si triste que soit cette occasion, je serais charmée de faire sa connaissance. » Ces derniers mots, que Wilhelm n'avait pas remarqués d'abord, l'effrayèrent, et il résolut aussitôt de ne pas aller chez la comtesse. « Et quoi ? » se dit-il. « Lothaire, qui sait notre liaison, ne lui a pas découvert qui je suis ? Celui qu'elle attend avec une âme tranquille, ce n'est pas une ancienne connaissance qu'elle aimerait mieux ne pas revoir. C'est un étranger qu'elle attend. Et je me présenterai devant elle. Je la vois rougir, je la vois reculer d'horreur. Non, il m'est impossible d'affronter cette scène. » On venait de mettre les chevaux à la voiture. Wilhelm était décidé à faire décharger ses effets et à rester. Son agitation était extrême. Il entendit la fille d'auberge qui montait pour l'avertir que la voiture était prête. Il chercha bien vite dans son esprit un motif qui l'obligea de demeurer, et ses regards s'arrêtèrent avec distraction sur le billet qu'il tenait à la main. « Mon Dieu !» se dit-il. « Que vois-je ? Ce n'est pas la main de la comtesse, c'est la main de l'Amazone !» La jeune fille entra, le pria de descendre et emmena Félix avec elle. « Est-ce possible ? » disait Wilhelm. « Est-ce vrai ? Que dois-je faire ? Rester ? Attendre ? M'éclaircir ? Ou plutôt courir ? Courir et me précipiter au-devant d'un dénouement. Ce chemin te conduit chez elle et tu peux balancer. Tu la verras ce soir et tu voudrais t'enfermer dans cette prison. C'est sa main, oui, sans aucun doute. Cette main t'appelle. Sa voiture est attelée pour te mener auprès d'elle. L'énigme est résolue. Lothaire a deux sœurs. Il connaît mes rapports avec l'une. Il ne sait pas combien je suis redevable à l'autre. Elle-même ne se doute pas que le vagabond blessé, qui lui doit, sinon la vie, du moins sa guérison, est l'hôte qui est accueilli dans la maison de son frère, avec une bonté si peu méritée. Félix, qui se balançait dans la voiture, s'écria « Viens, papa ! Oh, viens ! Vois les beaux nuages, les belles couleurs !»« Je vais, » dit Wilhelm en son cœur, tandis qu'il descendait vivement l'escalier. « Et toutes les merveilles des cieux qui te ravissent encore, aimable enfant, ne sont rien près du spectacle que j'attends. » Une fois en voiture, il repassa dans sa mémoire toutes les circonstances. « Nathalie est donc aussi l'amie de Thérèse. Quelle découverte! Quelle espérance et quelle perspective! Comme il est étrange que la crainte d'entendre parler d'une des sœurs ait pu me cacher complètement l'existence de l'autre! Avec quelle joie il regardait son Félix! Il espérait pour l'enfant et pour lui le meilleur accueil. Le soir approchait, le soleil était couché, la route n'était pas fort bonne, le postillon avait ralenti la marche. Félix était endormi, et de nouveaux doutes, de nouvelles inquiétudes s'éveillèrent dans le cœur de notre ami. Quelle folie, quelles illusions te dominent, se disait-il. Une incertaine ressemblance d'écriture te rassure tout à coup et te donne occasion d'imaginer la plus merveilleuse fable. Il reprit le billet, et aux dernières lueurs du jour, il crut de nouveau reconnaître l'écriture de la comtesse. Ses yeux ne voulaient pas retrouver en détail ce que son cœur lui avait dit soudain à la vue de l'ensemble. « Ainsi donc, ces chevaux te mènent au-devant de la plus affreuse scène. Qui sait si, déjà dans quelques heures, ils ne te ramèneront pas. Encore si tu l'as trouvé seul. Mais peut-être son mari sera-t-il présent, peut-être à la baronne. Comme je trouverai la comtesse changée, pourrais-je soutenir sa vue ? » Une faible espérance que c'était auprès de son amazone qu'il se rendait perçait quelquefois à travers ses sombres pensées. Il était nuit, la voiture roula sur le pavé d'une cour et s'arrêta. Un laquais, portant un flambeau, s'avança d'un magnifique portail, descendit un large escalier et s'approcha de la voiture. « On attend monsieur depuis longtemps, » dit-il en ouvrant la portière. Wilhelm, après être descendu, prit dans ses bras Félix endormi, et le premier domestique dit à un second qui se tenait à la porte un flambeau à la main. « Conduis monsieur chez la baronne. » « Quel bonheur !» se dit Wilhelm avec un soudain transport. « À dessein ou par hasard, la baronne est ici. Je la verrai la première. Apparemment, la comtesse est déjà couchée. Bon génie, faites que ce moment de perplexité passe d'une manière supportable. » Il entra dans la maison et se vit dans le lieu le plus sévère et le plus saint, lui semblait-il, où il fut jamais entré. Un lustre étincelant, suspendu au plafond, éclairait vivement un large escalier à pente douce qui se présentait devant lui et finissait par se courber en deux bras. Des statues et des bustes de marbre étaient rangés sur des piédestaux et dans des niches. Il crut en reconnaître quelques-unes. Les impressions d'enfance sont ineffaçables jusque dans leurs moindres détails. Il reconnut une muse qui avait appartenu à son grand-père. Ce ne fut pas, il est vrai, à sa figure et à son mérite, mais à un bras restauré et à quelques réparations de la draperie. Il croyait voir se réaliser un songe. L'enfant pesait sur son bras. Wilhelm chancela sur les degrés et se mit à genoux, comme pour le prendre plus commodément. Mais c'est en effet qu'il avait besoin de se remettre un instant. Le domestique qui l'éclairait voulut prendre Félix. Le père ne put se résoudre à s'en séparer. Ensuite, il entra dans le vestibule et vit, avec plus de surprise encore, le tableau bien connu qui représentait le prince malade d'amour. À peine avait-il eu le temps d'y jeter un coup d'œil que le valet lui fit traverser quelques salles et l'introduisit dans un cabinet. Là, une dame, assise derrière un écran qui la tenait dans l'ombre, était occupée à lire. « Oh, si c'était elle !» se disait-il en ce moment décisif. Il posa sur ses pieds Félix, qui semblait s'éveiller, et il voulait s'approcher de la dame. Mais l'enfant, cédant au sommeil, s'affaissa sur lui-même. La dame se leva et s'avança au-devant de Wilhelm. C'était l'Amazone. Il ne fut pas maître de lui, tomba à genoux et s'écria « C'est elle !» Il lui prit la main et la baisa avec transport. L'enfant était couché entre eux sur le tapis et dormait doucement. On le porta sur le canapé.
Nathalie s'assit à côté de lui. Elle invita Wilhelm à prendre un siège auprès d'elle. Elle lui offrit quelques rafraîchissements, qu'il refusa, tout occupé à s'assurer que c'était bien elle, à considérer attentivement ses traits, que l'écran tenait dans l'ombre, et à la reconnaître avec certitude. Elle lui parla de la maladie de Mignon, lui dit que l'enfant était lentement consumé par quelques sentiments profonds, qu'avec sa grande sensibilité, qu'elle dissimulait, son pauvre cœur éprouvait souvent des crampes violentes et dangereuses, que parfois ce premier organe de la vie s'arrêtait tout à coup dans les émotions imprévues, et qu'on ne pouvait apercevoir dans le sein de l'aimable enfant aucune trace de battement régulier. Quand cette crampe douloureuse était passée, le retour de la force vitale se manifestait chez elle par de violentes pulsations et la tourmentait par l'excès d'activité, comme elle avait souffert auparavant par le défaut. Wilhelm se souvint d'une scène pareille, et Nathalie s'en remit au docteur, qui lui parlerait plus amplement de la chose et lui exposerait avec plus de détails la raison pour laquelle on avait appelé l'ami et bienfaiteur de l'enfant. « Vous trouverez en elle, » poursuivit Nathalie, « un singulier changement. Elle porte maintenant ses habits de femme, pour lesquels elle semblait avoir auparavant une si grande horreur. « Comment l'avez-vous obtenue d'elle ?» dit Wilhelm. « Si c'est un changement favorable, nous ne le devons qu'au hasard. Voici comment la chose s'est passée. Vous savez peut-être que je suis toujours entourée d'un certain nombre de jeunes filles que je cherche à former au bien, tandis qu'elles grandissent auprès de moi. Elles n'entendent rien de ma bouche que je ne tienne pour vrai, mais je ne puis ni ne veux empêcher qu'elles n'apprennent aussi par d'autres personnes bien des erreurs et des préjugés répandus et accrédités dans le monde. Si elle me demande là-dessus quelques explications, je cherche autant que possible à lier ces idées étrangères et fausses à quelques idées justes, pour les rendre, sinon utiles, du moins innocentes. Mes jeunes filles avaient appris depuis quelque temps, des enfants du village, beaucoup de choses sur les anges, sur l'enfant Robert, sur le divin Jésus, qui, à certains moments, apparaissent en personne, récompensent les enfants sages et punissent les indociles. Elles soupçonnèrent que ce pouvaient être des personnes déguisées. Je les confirmai dans cette croyance, et sans m'engager dans beaucoup d'explications, je résolus de leur donner, à la première occasion, un spectacle de ce genre. Il se trouva justement qu'on touchait au jour de naissance de deux sœurs jumelles, qui s'étaient toujours fort bien conduites. Je promis que cette fois, un ange leur apporterait les petits présents qu'elles avaient si bien mérités. Elles attendaient cette apparition avec une vive anxiété. J'avais choisi Mignon pour ce rôle. Au jour marqué, on l'habille décemment d'une longue robe blanche au tissu léger. Rien n'y manquait. Ni la ceinture d'or autour de son sein, ni le diadème d'or dans les cheveux. Je voulais d'abord supprimer les ailes, mais les femmes de chambre, chargées de sa toilette, insistèrent pour deux grandes ailes dorées où elles voulaient faire briller leur adresse. Ainsi vêtue, un lys dans une main et une petite corbeille dans l'autre, la merveilleuse apparition s'avança au milieu des jeunes filles et me surprit moi-même. « Voici l'ange !» leur dis-je. Toutes les jeunes filles furent sur le point de reculer, puis elles finirent par s'écrier « C'est Mignon !» Cependant, elles n'osaient approcher de la figure fantastique. « Voici vos présents !» dit-elle en présentant la corbeille. On entoure la jeune fille, on l'observe, on la touche et on l'interroge. « Es-tu un ange ?» demanda un enfant. « Je le voudrais. Pourquoi portes-tu un lys à la main ? Oh, si mon cœur était pur et ouvert comme lui, alors je serais heureuse. Comment tes ailes sont-elles faites ? Laisse-nous les voir. Elles sont l'emblème de plus belles qui ne sont pas déployées encore.
C'est avec cette gravité qu'elle répondit à toutes ces questions innocentes et légères. Quand la curiosité de la petite troupe fut satisfaite et que l'effet de cette apparition parut s'affaiblir, on voulut déshabiller Mignon. Elle s'y refusa, prit sa guitare, monta sur cette haute table à écrire et chanta quelques strophes avec une grâce admirable. « Laissez-moi paraître en attendant que je sois. Ne m'ôtez pas la robe blanche. Je fuis la belle terre et descends dans l'inviolable demeure. Là, je sommeillerai un peu de temps, puis mes yeux ranimés s'ouvriront. Je quitterai ma blanche tunique, ma ceinture et ma couronne. Et les figures célestes ne me demanderont point si je suis homme ou femme, et nul voile, nul vêtement n'envelopperont mon corps glorifié. À la vérité, j'ai vécu sans soin et sans peine. Cependant, j'ai senti d'assez profondes douleurs. J'ai vieilli de chagrin avant l'âge. Faites-moi renaître jeune pour toujours. » Je résolus aussitôt, poursuivit Nathalie, de lui laisser sa robe, et j'ordonnai qu'on lui en fît quelques-unes de pareilles. Elle n'en porte plus d'autres maintenant, et sous ce nouveau costume, à ce qu'il me semble, elle a pris une expression toute nouvelle. La nuit étant déjà avancée, Nathalie se sépara de son nouvel hôte qui ne s'éloigna pas sans inquiétude. « Est-elle mariée ? » se disait-il. Chaque fois qu'il avait aperçu quelque mouvement, il avait craint de voir une porte s'ouvrir et le mari paraître. Le domestique qui le conduisit dans sa chambre s'éloigna avant qu'il eût pu se résoudre à le questionner. L'inquiétude le tint quelque temps éveillé. Il ne cessait de comparer la figure de l'Amazone avec celle de sa nouvelle amie. Elles ne pouvaient encore se confondre l'une avec l'autre. Il avait, en quelque sorte, formé l'une, et l'autre semblait vouloir le transformer. Chapitre 3. Le lendemain, tandis que le repos et le silence régnaient encore dans le château, Wilhelm se leva pour le parcourir. C'était l'architecture la plus belle, la plus pure et la plus imposante qu'il eût jamais vue. « Il en est, se disait-il, de l'art véritable comme de la bonne société. Il nous oblige, avec une grâce charmante, de reconnaître la mesure selon laquelle et pour laquelle notre nature intime est formée. Les bustes et les statues qui avaient appartenu à son grand-père firent sur lui une impression infiniment agréable. Il courut avec empressement au prince malade d'amour, et le tableau lui parut toujours gracieux et touchant. Le domestique lui ouvrit plusieurs autres salles. Il vit une bibliothèque, un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de physique. Il se sentit fort étranger à tous ces objets. Félix s'était réveillé et courait après lui. Wilhelm se demandait quand et comment il recevrait la réponse de Thérèse. Il redoutait la rencontre de Mignon et même de Nathalie. Combien ses dispositions étaient différentes lorsqu'il avait cacheté la lettre de Thérèse et avait remis avec joie tout son sort entre les mains de cette noble femme. On vint lui dire que Nathalie l'attendait pour déjeuner. Il entra dans une salle où plusieurs petites filles, vêtues simplement, et dont aucune ne paraissait avoir plus de 10 ans, mettaient le couvert, tandis qu'une personne âgée apportait une légère collation. Wilhelm considérait un portrait placé au-dessus du canapé. Il était forcé d'y reconnaître la figure de Nathalie, mais il était loin d'en être satisfait. Nathalie entra et toute la ressemblance disparut. Heureusement, la croix de chanoinesse brillait également sur la poitrine de l'image et sur celle de Nathalie. « Madame, lui dit-il, j'examinais cette peinture, et je m'étonne qu'un artiste puisse être à la fois si fidèle et si menteur. Cette figure vous ressemble fort bien en général, et pourtant ce ne sont ni vos traits ni votre expression. » « Il faut plutôt s'étonner, répondit Nathalie, qu'il s'y trouve autant de ressemblances, car ce n'est point mon portrait, c'est celui d'une tante qui me ressemblait encore étant âgée,
quand je n'étais qu'une enfant. Lorsqu'on fit cet ouvrage, elle avait à peu près l'âge où je suis, et au premier coup d'œil, chacun s'y trompe. Que n'avez-vous connu cette femme excellente? Je lui ai de grandes obligations. Une très faible santé, l'habitude, peut-être excessive, de se replier sur elle-même, et des scrupules moraux et religieux, ne lui permirent pas d'être pour le monde ce qu'elle eût été avec d'autres dispositions. Ce fut une lumière qui brilla seulement pour quelques amis et pour moi. « Serait-il possible ?» reprit Wilhelm après un moment de réflexion, et frappé tout à coup du concours de tant de circonstances diverses. « Serait-il possible que cette âme si noble et si belle, dont j'ai pu lire aussi les paisibles aveux, fût votre tante ?»« Vous avez lu ce manuscrit ?»« Oui, madame, avec le plus grand intérêt. » Et non sans fruit pour toute ma vie. Ce qui m'a le plus frappé dans ce récit, c'est, je pourrais dire, la netteté de l'objet, non seulement en ce qui la touche elle-même, mais encore dans tout ce qui l'environnait. C'est cette nature indépendante, incapable de rien admettre en elle qui ne fût en harmonie avec ses sentiments nobles et bienveillants. Vous êtes donc plus équitable, plus juste, je puis dire, envers ce beau caractère, que maintes personnes auxquelles on a, comme à vous, communiqué ses mémoires. Tout homme cultivé sait quel rude combat il a dû soutenir avec lui-même et avec les autres, combien son éducation lui a coûté d'efforts, et à quel point il oublie, dans certains cas, ce qu'il doit aux autres pour ne songer qu'à lui-même. Combien de fois l'homme vertueux se reproche-t-il de n'avoir pas agi avec assez de délicatesse? Cependant, lorsqu'un beau naturel pousse la délicatesse et les scrupules jusqu'aux dernières limites, et même, si l'on veut, jusqu'à l'excès, le monde semble n'avoir pour lui aucun support, aucune indulgence. Et pourtant, ces natures d'élite sont hors de nous ce que l'idéal est en nous. Ce sont des modèles proposés, non pas à notre imitation, mais à notre émulation. On rit de la propreté des Hollandaises, mais notre amie Thérèse serait-elle ce qu'elle est si elle n'avait constamment ce modèle dans la pensée au milieu de son ménage ? Ainsi donc, reprit Wilhelm, je retrouve dans l'amie de Thérèse cette Nathalie, si chère à sa vertueuse parente, cette Nathalie, si compatissante, si tendre et si secourable dès son enfance. Ce n'est que dans une pareille famille qu'un pareil cœur pouvait naître. Quel tableau se déroule devant moi quand j'envisage d'un regard vos ancêtres et tout le cercle auquel vous appartenez. J'en conviens, répondit Nathalie, qu'en un certain sens, vous ne pouviez être mieux informé sur notre famille que par le récit de notre tante. Cependant, son amour pour sa nièce l'a porté à dire trop de bien de moi. Quand on parle d'un enfant, on ne dit jamais ce qu'il est, mais ce qu'on espère de lui. Wilhelm avait réfléchi soudain qu'il connaissait aussi maintenant la naissance et les premiers ans de Lothaire. Il voyait la belle comtesse, encore enfant, avec les perles de sa tante autour du cou. Lui-même, il s'était trouvé bien près de ces perles, quand les lèvres amoureuses de la comtesse s'étaient posées sur les siennes. Il tâchait d'éloigner par d'autres pensées ses beaux souvenirs. Il passait en revue les personnes que cet écrit lui avait fait connaître. « Ainsi donc, disait-il, je suis dans la maison de cet oncle vénérable ?» « Ce n'est pas une maison, c'est un temple, et vous en êtes la digne prêtresse, vous en êtes le génie. Je me souviendrai toute ma vie de l'impression que j'éprouvais hier au soir, lorsqu'à mon entrée, je vis devant moi les œuvres d'art qui m'avaient entouré dans mon enfance. Je me rappelais les strophes de Mignon et ses statues compatissantes, mais ces statues n'avaient pas à pleurer sur moi. Elles me regardaient avec une noble gravité, et rattachait à ce moment mes premiers souvenirs. Cet ancien trésor de notre famille, les délices de mon grand-père, je le trouve ici parmi cent autres chefs-d'œuvre. Et moi,
que la nature avait fait le favori de ce bon vieillard, moi, indigne, je m'y trouve aussi. Bon Dieu, dans quelle liaison, dans quelle société ! Les jeunes filles s'étaient peu à peu retirées pour vaquer à leurs petits travaux. Wilhelm resta seul avec Nathalie, qui lui demanda d'expliquer plus clairement ses dernières paroles. La découverte qu'une précieuse partie des œuvres d'art qui formaient la collection avait appartenu à son grand-père rendit la conversation plus gaie et plus familière. Tout comme Wilhelm avait fait connaissance avec la famille par le moyen du manuscrit, maintenant il se retrouvait en quelque sorte dans son héritage. Il désirait voir Mignon. Son ami le pria de prendre patience jusqu'au retour du docteur, qu'on avait appelé dans le voisinage. On devine aisément que c'était ce même petit homme, plein d'activité, que déjà nous connaissons et qui figurait aussi dans « Les confessions d'une belle âme ». « Puisque je me trouve au sein de cette famille, » dit Wilhelm, « l'abbé dont parle le manuscrit est aussi, je pense, l'homme bizarre, inexplicable, que j'ai retrouvé chez votre frère après les plus singuliers événements. Peut-être, madame, me donnerez-vous sur lui quelques éclaircissements ?»« Il y aurait beaucoup à dire sur son compte, » répondit Nathalie. « Ce que je sais le mieux, c'est l'influence qu'il a exercée sur notre éducation. Il a cru longtemps que l'éducation doit se baser tout entière sur les penchants naturels. Ce qu'il pense aujourd'hui, je l'ignore. Il affirmait que le tout de l'homme est l'activité et qu'on ne peut rien faire sans la disposition naturelle, sans l'instinct. On accorde, disait-il souvent, que l'on est poète. On l'accorde pour tous les arts, parce qu'on ne peut le méconnaître et parce que ces manifestations de la nature humaine peuvent à peine être contrefaites. Mais une observation attentive fera reconnaître que chacune de nos facultés, même les moins importantes, sont nées avec nous, et qu'il n'est pas une seule faculté indéterminée. Ce n'est que notre éducation équivoque, décousue, qui rend les hommes indécis. Elle éveille des désirs au lieu d'animer des penchants, et au lieu de seconder nos véritables dispositions, elle dirige nos efforts vers des objets bien souvent sans accord avec le naturel de ceux qui les poursuivent. J'aime mieux un enfant, un jeune homme, qui s'égare sur leur propre voie, que tant d'autres qui suivent régulièrement une voie étrangère. Quand les premiers trouvent, par eux-mêmes ou par des indications, le droit chemin, c'est-à-dire celui qui convient à leur nature, ils ne l'abandonneront jamais, au lieu que les autres sont tentés, à chaque moment, de secouer un joug étranger et de se livrer à une liberté sans frein. « Chose étrange, » dit Wilhelm, « cet homme remarquable s'est aussi occupé de moi, et à ce qu'il semble, il m'a engagé, à sa manière, ou du moins il m'a fortifié quelque temps dans mes erreurs. Comment il pourra se justifier un jour de s'être, en quelque sorte, joué de moi, avec le concours de plusieurs amis, c'est une question dont il faut que j'attende la solution avec patience. » Pour moi, dit Nathalie, je n'ai pas à me plaindre de cette manie, si c'en est une. C'est moi qui m'en suis le mieux trouvée dans la famille. Je ne vois pas non plus comment l'éducation de Lothaire aurait pu être meilleure. On devait peut-être diriger autrement ma bonne sœur, la comtesse. On pouvait lui communiquer un peu plus de force et de gravité. Ce que deviendra mon frère Frédéric, on ne saurait absolument le prévoir. Je crains qu'il ne soit la victime de cette expérience pédagogique. « Vous avez un second frère ?» s'écria Wilhelm. « Oui, un frère fort gai et fort léger, et comme on ne l'a point empêché de courir le monde, je ne sais ce que deviendra cette nature frivole. Il y a longtemps que je ne l'ai vu. Une seule chose me tranquillise, c'est que l'abbé et les amis de mon frère savent toujours où il se trouve et ce qu'il fait. » Notre amie allait demander à Nathalie ce qu'elle pensait de ces paradoxes et quelques éclaircissements sur la société secrète quand le docteur entra, et après avoir souhaité à Wilhelm la bienvenue,
lui parla sur-le-champ de l'état de Mignon. Nathalie prit Félix par la main pour le mener auprès de la pauvre enfant qu'elle voulait préparer à revoir son ami. Le médecin, se voyant seul avec Wilhelm, poursuivit en ces termes. « J'ai à vous apprendre d'étranges secrets, que vous ne soupçonnez guère. L'absence de Nathalie nous permet de parler plus librement de choses que je ne pouvais apprendre que par elle, mais dont nous ne pouvions discourir ouvertement en sa présence. Le trait principal du singulier caractère de l'aimable enfant qui nous intéresse est une ardeur profonde. Sa passion de revoir sa patrie et sa passion pour vous, mon ami, forment pour ainsi dire ce qu'il y a de terrestre en elle. L'un et l'autre objet sont reculés pour elle dans un lointain sans bornes. L'un et l'autre sont inaccessibles à cet excellent cœur. Elle paraît originaire de Milan et fut enlevée à ses parents par une troupe de saltimbanques. On ne peut en savoir d'elle davantage, parce qu'elle était trop jeune pour indiquer exactement le nom de sa famille et le lieu de sa naissance, mais surtout parce qu'elle a fait serment de ne révéler à personne au monde sa demeure et son origine. Car ces mêmes gens qui la trouvèrent égarée et auxquels elle décrivit exactement sa demeure, avec d'instantes prières de la reconduire chez elle, n'en furent que plus pressés de l'emmener. Et la nuit, dans l'auberge, croyant que l'enfant était endormi, ils plaisantèrent sur la bonne capture qu'ils avaient faite, affirmant que sans doute elle ne retrouverait pas son chemin. Alors la pauvre petite fut saisie d'un affreux désespoir, dans lequel enfin la mère de Dieu lui apparut et lui promit son assistance. Là-dessus, elle fit serment et se promit à elle-même de ne jamais se confier à personne, de ne raconter à personne son aventure, et de vivre et mourir dans l'attente d'un secours divin. Ces détails même que je vous rapporte, elle ne les a pas confiés expressément à Nathalie. Notre digne amie les a recueillis de quelques mots épars, de chants et d'indiscrétions enfantines, qui trahissent justement ce qu'elles veulent cacher. Wilhelm put alors s'expliquer bien des chants, bien des paroles de la bonne Mignon. Il conjura son ami de lui dire tout ce qu'il avait découvert par les chants et les aveux singuliers de cet enfant extraordinaire. « Préparez-vous, lui dit le docteur, à une étrange confidence, à une aventure où, sans le savoir, vous avez eu beaucoup de part, et qui, je le crains, sera décisive pour la vie ou la mort de Mignon. Parlez, mon impatience est au comble. Vous souvient-il d'une visite nocturne, mystérieuse, qu'une femme vous fit après la représentation d'Hamlet ? Oui, je m'en souviens, dit Wilhelm avec embarras, mais je ne croyais pas qu'on m'en fît souvenir dans ce moment. Savez-vous qui était cette femme ? Non, vous m'effrayez. Au nom du ciel, ce n'était pas Mignon. Qui donc ? Parlez. Je l'ignore moi-même. Ainsi, ce n'était pas Mignon. Non, sans doute, mais Mignon était sur le point de se glisser auprès de vous et fut condamné à voir, d'une cachette, qu'une rivale l'avait devancé. Une rivale ? Poursuivez, je suis confondu. Félicitez-vous plutôt de pouvoir apprendre si vite ces résultats de nos observations. Nathalie et moi, qui cependant ne prenons à l'affaire qu'un intérêt plus éloigné, nous avons assez souffert avant de parvenir à nous expliquer un peu clairement le trouble de cette pauvre créature que nous désirions secourir. Rendue attentive par les propos légers de Philine et des autres jeunes femmes et par une certaine chansonnette, elle avait trouvé ravissante l'idée de passer une nuit près de son bien-aimé, sans imaginer autre chose qu'un intime et délicieux repos. Sa passion pour vous était déjà vive et impérieuse. Déjà plus d'une fois, elle avait trouvé dans vos bras une trêve à ses douleurs. Elle désirait goûter ce bonheur dans toute sa plénitude. Tantôt elle se proposait de solliciter cette grâce par ses caresses, tantôt elle était retenue par une frayeur secrète. Enfin, cette joyeuse soirée et le vin qu'elle avait bu
lui donnèrent le courage de risquer cette démarche et de se glisser chez vous cette nuit-là. Déjà, elle vous avait devancé pour se cacher dans la chambre qui n'était pas fermée. Mais lorsqu'elle eut monté l'escalier, elle entendit un léger bruit. Elle se cacha et vit une femme, vêtue de blanc, se couler dans votre chambre. Bientôt, vous arriva de vous-même et elle entendit pousser le verrou. Mignon souffrit une douleur inouïe. Toutes les fureurs d'une violente jalousie se mêlèrent aux élans inconnus de vagues désirs et assaillirent violemment la faible adolescente. Son cœur avait battu jusque-là de désir et d'espérance. Tout à coup, il s'arrêta et pesa sur son sein comme une masse de plomb. La respiration lui manqua, elle ne savait où trouver du soulagement. Elle entendit la harpe du vieillard, courut dans son grenier et passa la nuit à ses pieds, agitée d'horribles convulsions. Le docteur s'arrêta un moment, et comme Wilhelm gardait le silence, il reprit la parole. « Nathalie m'a déclaré que jamais rien ne l'avait tant effrayée et saisie que l'état de Mignon, pendant qu'elle lui faisait ce récit. Notre noble amie se faisait même des reproches d'avoir tiré d'elle ses aveux par ses questions insinuantes, et d'avoir cruellement renouvelé, par ses souvenirs, la vive douleur de la pauvre enfant. « Cette bonne créature, disait Nathalie, à peine arrivée à cet endroit de son récit, ou plutôt de ses réponses à mes questions toujours plus pressantes, tomba soudain devant moi, et la main sur le cœur, elle se plaignit de ressentir la même douleur que dans cette affreuse nuit. Elle se roulait par terre comme un ver, et j'eus besoin de toute ma fermeté, afin de me rappeler et de mettre en usage les moyens que je connaissais pour soulager dans ces circonstances et l'esprit et le corps. Vous me plongez dans une véritable angoisse, s'écria Wilhelm, en me faisant sentir si vivement tous mes torts envers cette chère enfant, à l'instant même où je vais la revoir. S'il faut que je la voie, « pourquoi m'ôtez-vous le courage de l'aborder sans embarras ? Et dois-je vous le dire, telle étant la disposition de son cœur, je ne vois pas le bien que peut lui faire ma présence. Si vous êtes persuadé comme médecin que cette double passion a miné ses forces au point de mettre sa vie en danger, pourquoi faut-il que je renouvelle ses douleurs ? Et peut-être que je hâte sa fin en paraissant à sa vue. » Mon ami, quand nous ne pouvons guérir, nous devons du moins chercher à soulager, et j'ai vu, par des exemples frappants, combien la présence de l'objet aimé enlève à l'imagination son pouvoir destructeur et transforme le brûlant désir en une paisible contemplation. Observons en tout la mesure et le but, car la présence peut aussi rallumer une passion éteinte. Voyez la bonne Mignon. Soyez doux et caressant, et attendons l'événement. » À ce moment, Nathalie revint et invita Wilhelm à la suivre auprès de Mignon. « Elle semble, dit-elle, tout à fait heureuse d'être avec Félix, et j'espère qu'elle recevra fort bien son ami. » Wilhelm suivit Nathalie, non sans être un peu combattu. Il était profondément ému de tout ce qu'il avait appris, et craignait une scène passionnée. Ce fut tout le contraire. Mignon, en longue robe blanche, avec ses beaux cheveux bruns, en partie tressés, en partie flottants, était assise, tenant Félix sur ses genoux et le pressant sur son cœur. Elle semblait une ombre, et Félix paraissait la vie même. On eût dit que la terre et le ciel s'embrassaient. Elle tendit la main à Wilhelm en souriant et lui dit « Je te remercie de m'avoir ramené l'enfant. On me l'avait enlevé, Dieu sait comment, et dès lors je ne pouvais plus vivre. Aussi longtemps que mon cœur aura besoin de quelque chose sur la terre, c'est Félix qui doit remplir ce vide. » Le calme avec lequel Mignon avait reçu Wilhelm causa une grande joie à tous ses amis. Le médecin demanda que Wilhelm la vît souvent et que l'on maintînt son corps et son esprit en équilibre. Puis il se retira et promit de revenir bientôt. Wilhelm eut alors le loisir d'observer Nathalie dans le cercle de ses occupations. On n'aurait pas souhaité de plus grand bonheur que de vivre auprès d'elle. Sa présence était la plus heureuse influence sur les jeunes filles et les femmes d'âge divers, dont les unes habitaient dans sa maison et les autres venaient du voisinage la visiter plus ou moins souvent. « Le cours de votre vie fut sans doute toujours égal, » lui dit un jour Wilhelm, « car le portrait que votre tante fait de votre enfance me paraît vous ressembler encore. L'erreur, on le sent bien, vous fut toujours étrangère. Vous ne fûtes jamais obligée de revenir sur vos pas. » « J'en suis redevable, » répondit-elle, « à mon oncle et à l'abbé, qui avait jugé si bien mon caractère. Je me souviens à peine d'avoir éprouvé dans mon enfance une plus vive impression que celle du spectacle des misères humaines et du désir invincible de les soulager. L'enfant qui n'a pas encore la force de se tenir sur ses pieds, le vieillard qui ne l'a plus, le vœu d'une riche famille d'avoir des enfants, l'angoisse d'une famille pauvre qui ne peut nourrir les siens, tout secret désir d'exercer un métier, tout penchant pour les arts, l'aptitude à remplir 1000 petites industries nécessaires, tout cela, mes yeux semblaient destinés par la nature à le découvrir. Je voyais ce que personne ne m'avait fait remarquer, mais aussi je paraissais né uniquement pour le voir. Les beautés de la nature inanimée, auxquels tant d'hommes sont extraordinairement sensibles, n'avaient aucun effet sur moi, et peut-être moins encore le charme des beaux-arts. Il n'était, et aujourd'hui même, il n'est rien de plus agréable pour moi que de chercher un dédommagement, un moyen, un secours, lorsqu'une souffrance, un besoin, se présente à mes yeux. Si je voyais un pauvre couvert de haillons, aussitôt je pensais aux vêtements superflus que j'avais vus suspendus dans les garde-robes de mes proches. Si je voyais des enfants qui languissaient sans soins et sans culture, je me souvenais de telle ou telle dame que j'avais vue livrée à l'ennui dans le luxe et l'opulence. Quand je rencontrais beaucoup de gens entassés dans un étroit espace, je me disais qu'il faudrait les loger dans les vastes salles de maints palais et de maints châteaux. Cette manière de voir m'était tout à fait naturelle, la réflexion n'y avait aucune part, si bien que, dans mon enfance, je faisais à ce sujet les choses les plus étranges du monde, et mettais quelquefois les gens dans l'embarras par les propositions les plus bizarres. Une autre singularité, c'est que j'en vins difficilement, et fort tard, à considérer l'argent comme un moyen de satisfaire les besoins. Je faisais tous mes dons en nature, et je sais qu'on en riait parfois à mes dépens. L'abbé lui seul paraissait me comprendre. Je le trouvais partout. Il m'éclairait sur moi-même, sur mes penchants et mes vœux, et m'apprenait à les satisfaire sagement. Avez-vous donc suivi, madame, les principes de ces hommes singuliers dans l'éducation de vos petits élèves? Laissez-vous chaque caractère se former de lui-même? Laissez-vous ces jeunes filles chercher et s'égarer, se méprendre, puis atteindre heureusement le but ou se perdre misérablement dans l'erreur? Non, répondit Nathalie, cette manière de traiter les créatures humaines serait tout à fait contraire à mes sentiments. Celui qui n'aide pas dans l'instant même, je crois qu'il n'aidera jamais. Qui ne conseille pas dans le moment ne conseillera jamais. Il me semble également nécessaire d'énoncer et de graver dans la mémoire des enfants quelques règles qui donnent à la vie une certaine fixité. Oui, j'oserais presque affirmer qu'il vaut mieux s'égarer en suivant les règles que s'égarer en se laissant emporter au penchant arbitraire de sa nature. Et tel que je vois les hommes, il me semble qu'ils restent toujours dans leur nature un vide, qui ne peut être comblé que par une loi expresse et positive. Ainsi, votre méthode diffère complètement de celle que suivent nos amis. Oui, mais vous pouvez reconnaître leur parfaite tolérance en ce qu'ils ne me contrarient nullement sur ma route, précisément parce que c'est la mienne. Ils vont au contraire au-devant de tous mes désirs. Nous réservons pour une autre occasion des éclaircissements plus détaillés sur la méthode que Nathalie suivait avec ses élèves. Mignon demandait souvent de se joindre à la société, et on le lui permettait d'autant plus volontiers qu'elle semblait peu à peu s'accoutumer de nouveau à Wilhelm, lui ouvrir son cœur, et en général montrer plus de bonne humeur et de sérénité. Comme elle se fatiguait aisément pendant la promenade, elle s'appuyait sur son bras. « Maintenant, disait-elle, Mignon ne grimpe et ne saute plus, mais elle sent toujours le désir de se promener sur les sommets des montagnes, de s'élancer d'une maison sur une autre, d'un arbre sur un autre. Qu'ils sont dignes d'envie, les oiseaux, surtout quand ils bâtissent leur nid, si charmants et tranquilles. » Mignon prit bientôt l'habitude d'inviter assez souvent son ami à descendre au jardin. Était-il occupé ou absent, Félix prenait sa place. Et si, dans certains moments, la bonne jeune fille semblait tout à fait détachée de la terre, dans d'autres, elle paraissait de nouveau s'attacher fortement au père et au fils, et redouter plus que tout le reste de se séparer d'eux. Nathalie en fut préoccupée. Elle dit à Wilhelm « Nous avons désiré par votre présence épanouir de nouveau ce pauvre cœur. Je ne sais trop si nous avons bien fait. » Elle se taisait et paraissait attendre que Wilhelm s'expliquât. Il vint à songer aussi que, dans les circonstances présentes, son mariage avec Thérèse mettrait Mignon au désespoir. Mais dans l'incertitude où il était, il n'osait parler de ses intentions. Il ne soupçonnait pas que Nathalie en fût informée. C'était avec la même contrainte qu'il soutenait la conversation, quand sa noble amie parlait de la comtesse, faisait l'éloge de ses belles qualités et plaignait son état. Il fut vivement troublé quand Nathalie lui annonça qu'il verrait bientôt cette dame. « Son mari, lui dit-elle, n'a plus d'autre pensée que celle de remplacer le comte Zinzendorf chez les frères Moraves, de soutenir et d'étendre, par ses lumières et ses travaux, cette grande institution. Ils viendront bientôt nous faire, en quelque façon, leurs adieux. Ensuite, le comte visitera les divers lieux où la communauté s'est établie. On paraît le traiter selon ses désirs, et je crois même qu'il risquera, avec ma pauvre sœur, un voyage en Amérique, afin de ressembler parfaitement à son prédécesseur. Comme il est fort disposé à croire qu'il lui manque un peu de choses pour être un saint, il peut se sentir quelquefois la fantaisie de conquérir enfin à son tour l'auréole du martyre. »